Il y a quelque temps, j'ai entendu un pasteur de jeunesse qui donnait un message et puis il parlait de Samuel et il faisait allusion à la situation où Dieu a parlé directement à Samuel et il a dit, ah, mais ce serait vraiment génial que Dieu nous conduise tout le temps de cette manière. Puis je me suis dit, intéressant. Et en fait, je me suis dit, ben, réfléchissons un petit peu à la manière dont Dieu nous conduit. Comment est-ce que l'esprit de Dieu nous conduit? Alors, on a entendu que c'était par un vent qui souffle et une rivière dans laquelle on se laisse embarquer. Mais bon, ça, c'est une métaphore. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit sur la manière dont l'esprit nous conduit? C'est ce que je vous invite à découvrir ce matin. Mais j'aimerais prier avant. Seigneur Père, on a chanté ce chant magnifique où nous avons chanté et c'était à toi ou quelque chose comme ça. Tout est attribué. Comme le dit Paul, tout est de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Et dans notre vie, Père, nous aimerions vivre davantage de cette réalité, davantage de l'abondance de ta présence, de la sagesse de ta présence, l'omniscience de ta présence. Et nous prions qu'à travers cette méditation sur l'Écriture, tu nous instruises, tu nous éclaires sur la manière tellement varié qu'à l'esprit de nous conduire, afin que nous n'ayons pas moins que ce que tu nous destines, ou que nous n'allions pas chercher ailleurs à être dirigés par des esprits étrangers. Donne-nous, Père, le discernement dont nous avons besoin, afin d'entrer dans cette plénitude de communion avec toi, qui nous permet de discerner le chemin à suivre. Et nous te remercions par avance pour ce que tu vas manifester de ta sagesse parmi nous. Amen. Paul le dit en Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Quand Paul écrit cette phrase, il résume tout le mystère, toute la beauté, toute la puissance qu'il y a dans le salut que Jésus nous a acquis. Mais pour mieux appréhender, mieux saisir ce mystère, pour y réfléchir, je propose qu'on le place dans le contexte de la création, dans le contexte le plus large possible, parce que le salut concerne la totalité de la création. Alors, ça nous ramène au premier chapitre de la Genèse. Ces chapitres nous disent que, après avoir créé l'univers et ordonné la vie sur terre, eh bien, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés à son image et il les a créés pour que l'homme croisse, multiplie, remplisse la terre, domine sur les animaux. Et dans ce cadre, il a confié à l'homme la mission de le représenter dans cette création, la mission d'être un bon gérant de cette création. Et pour que l'homme devienne vraiment ce qu'il est appelé à être, c'est-à-dire à l'image de Dieu, eh bien Dieu a créé un espace de liberté pour lui, un espace de liberté et de responsabilité, afin que l'homme, dans ce cadre, puisse manifester à Dieu son amour pour lui. Comment? Eh bien, comme l'avait indiqué Dieu, en se nourrissant de l'arbre de vie, en étant ce gérant de la création, tout en renonçant à prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est comme ça qu'il était appelé à manifester son amour pour Dieu. Malheureusement, parce qu'il y a un malheureusement, Genèse 3 nous apprend que Adam s'est laissé tromper par un mensonge, par une illusion. Il a cru qu'il pouvait être comme Dieu. Il a cru qu'il était possible pour lui de devenir éternel, de devenir autonome, autosuffisant, à jamais complet en lui-même, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, après qu'il en ait pris, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert qu'il était nu, qu'il avait honte, et qu'il était aliéné, c'est-à-dire étranger. Tout à coup, il est devenu étranger à Dieu, étranger à lui-même, étranger à la femme que Dieu lui avait donnée, étranger à la création. Voilà le bénéfice. Et on peut difficilement se représenter le cataclysme cosmique qu'a provoqué cette chute de l'homme. Parce que à cause de cette chute, le virus de la mort est entré dans tous les aspects de la création, les animaux, les plantes, l'univers. Tout cela va être ramené à la poussière. Mais, alors que la situation semble absolument désespérée, Adam et Ève entendent Dieu dire au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. » Et ce qu'Adam et sa femme ont compris à ce moment-là, c'est que leur salut résidait dans leur descendance. Et par conséquent, on lit en Genèse 4, 1, un acte de foi, en fait, un acte de foi. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel, c'est le premier de la lignée qui aboutira à Christ. Et c'est ce que Paul confirme quand il dit en 2 Timothée 2, 14, 15, il dit, ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme, elle a désobéi au commandement de Dieu, mais elle sera sauvée, et avec elle toute l'humanité croyante, elle sera sauvée grâce à sa descendance. Alors, cette histoire de Dieu, cette histoire du salut que Dieu a mis en route dans le jardin, cette histoire, elle va passer par plusieurs étapes. Et à chacune de ces étapes, Dieu va réaffirmer sa volonté, sa résolution absolue de rétablir cette relation perdue avec l'homme. Et on le voit à travers les alliances qu'il passe. Il passe une alliance avec Abraham, où là, il annonce à Abraham qu'il va lui donner une descendance et que Abraham lui-même sera un modèle de foi pour toutes les familles de la terre. On voit aussi dans l'alliance que Dieu passe avec Moïse, où là, Dieu, il libère ce peuple qui est esclave des dieux de l'Égypte, et en même temps, il se révèle à ce peuple qu'il a conçu en Égypte comme le Dieu qui est saint. Et puis, le sommet de tout, c'est Dieu qui passe l'alliance avec les hommes, l'alliance en Jésus-Christ, où là, il se fait connaître comme celui qui affranchit son peuple de la puissance et de la culpabilité du péché. Et il se fait connaître aussi comme celui qui appelle ce peuple à vivre en Christ, à accepter la royauté de Christ. Christ qui accorde son esprit pour conduire chacun des membres de ce peuple racheté. Et on revient, c'est un peu, on ferme la boucle un petit peu, on revient à ce que dit Paul, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. C'est tellement énorme. C'est une phrase dont on a tellement l'habitude, mais c'est une phrase dont les répercussions sont absolument gigantesques. Ça change absolument tout. Alors, comme nous sommes fils et filles, une majorité d'entre nous, en tout cas ici, sommes fils et filles de Dieu, il y a une question, il y a même deux questions qui nous intéressent. La première, c'est comment est-ce que le Saint-Esprit nous conduit? Parce qu'il y a intérêt à le comprendre de manière à ce que ce ne soit pas un autre esprit qui nous conduise. Et puis, la deuxième question, c'est, mais si l'Esprit nous conduit, il nous conduit vers quoi? Et ça, c'est important de le comprendre de manière à ce qu'on puisse coopérer avec l'Esprit qui est à l'œuvre en nous. Alors, on va prendre ces deux questions. La première, comment est-ce que le Saint-Esprit nous conduit? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous propose de prendre l'exemple de Paul, dont la vie est très soigneusement décrite dans le livre des Actes. Parce que là, on voit Dieu le conduire, ou l'Esprit de Dieu le conduire dans toutes sortes de situations. La première de ces manières qu'a l'Esprit de Jésus, quand on parle d'Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il faut comprendre ça d'une manière assez large. La première manifestation que Jésus a donnée de sa direction à Paul, elle a été très brutale. Paul est sur le chemin de Damas, avec des intentions vraiment hostiles vis-à-vis de l'Église, et là, il y a un mur devant lui. Il s'écrase contre un mur, quasiment. Jésus l'arrête net. Et le choc est tellement violent que Paul reste aveugle, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ça, c'était une communication très directe avec Paul. Apparemment parce qu'autrement, il ne comprenait pas. Mais ce n'est pas la seule manière dont l'Esprit a parlé à Paul. Paul, il a appris après. En Actes 16, 15 ou 20 ans plus tard, alors qu'il parcourt l'Asie avec Silas pour y fortifier les églises, le Saint-Esprit les empêche d'évangéliser l'Asie, donc ils poursuivent leur chemin, et puis l'Esprit les empêche une nouvelle fois d'aller en Bithynie. Encore, contact direct. Stop, on va pas plus loin. Mais l'Esprit est encore intervenu directement dans la vie de Paul en lui donnant des visions. À 5 reprises, Paul reçoit des visions. Quand vous lisez l'entièreté de sa vie dans le livre des Actes, 5 fois, Dieu lui parle par des visions. Je vous donne 3 exemples. En Actes 22, 17-18, peu après sa conversion, Paul est dans le temple à Jérusalem, il prie. Et là, il est ravi en extase. Et Dieu lui dit, je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Nouvelle indication très très directe de la marche à suivre. En Actes 18, versets 9 et 10, à Corinthe, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains pas, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » C'est fantastique, Dieu lui parle directement. Il n'y a pas d'erreur possible. Et puis en Actes 23, 11, là c'est dans une situation vraiment difficile, après sa comparution devant le Sanhédrin, vous savez quand il a été arrêté à Jérusalem, il comparait devant le Sanhédrin, et ça s'est mal fini, on verra plus tard, les Romains l'ont ramené dans sa cellule, et alors qu'il est dans sa cellule, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage ». Car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Alors, dans 2 autres situations, l'Esprit a parlé à Paul dans une vision nocturne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que Dieu vous donne une vision? Moi, je dois honnêtement vous dire, ça m'est jamais arrivé. Alors, peut-être qu'on peut se dire, ouais, mais pourquoi? Peut-être qu'on manque de spiritualité. Pourquoi? Eh bien, peut-être que Dieu ne nous a jamais parlé à travers des visions, parce que les différentes situations dans lesquelles on s'est trouvé n'ont jamais nécessité qu'il nous parle de cette manière. Il n'y a pas d'obligation que Dieu nous parle par des visions. Il nous parle déjà par la Bible, il y a déjà pas mal dedans. Donc, pas de complexe à faire. Si des gens vous disent, moi, j'ai reçu une vision, ben, peut-être. Mais si vous n'en avez pas reçu, pas de complexe à avoir. Ça, c'est la première manière de l'Esprit de communiquer avec Paul, très directement. Mais c'est pas la seule. L'Esprit communique aussi en recourant à des tiers. Et là, on revient à Acte 9. Parce que vous savez que Paul, il est dans une maison à Damas, il est aveugle, il mange pas, il boit pas. Mais Dieu appelle Ananias à aller auprès de Paul et pour en quelque sorte lui révéler la suite du programme, la suite de la volonté de Dieu. Il va pour lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue, pour le baptiser et qu'il soit rempli de l'Esprit. Et Jésus a dit à Ananias, pour l'encourager, parce qu'il n'était pas tellement chaud pour se rendre auprès de Paul, il dit à Ananias, « J'ai choisi cet homme pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Voilà la volonté de Dieu qui est manifestée ici pour Paul. Autre exemple où le Saint-Esprit utilise des tiers pour révéler sa volonté à Paul. Voyons que je m'y retrouve là. En acte 13, alors qu'il prie et jeûne, les prophètes et les enseignants de l'église d'Antioche reçoivent de l'Esprit cette parole. « Mettez-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les destine, Barnabas et Saul. » Donc, Saul a découvert, ou Paul a découvert la volonté de Dieu par l'intermédiaire de tierces personnes qui lui ont parlé. Alors, tout ça, c'est absolument étonnant, c'est de l'ordre du surnaturel. Mais il faut peut-être dire une petite chose. C'est que il y a des chrétiens qui ont tendance à penser que la vie chrétienne normale, c'est justement de vivre dans le surnaturel continuellement. Alors pour ces gens, c'est absolument enthousiasmant de pouvoir dire « Dieu m'a donné une vision ». Parce que ça donne de la force de conviction. Ou telle personne m'a dit ceci de la part de Dieu, que je dois faire ceci, cela. Oui, mais si on pense que c'est la manière standard et continuelle qu'a Dieu de communiquer avec nous, ou qu'a l'Esprit de communiquer avec nous, on risque de devenir très passif. Parce que en réalité, c'est relativement rare que Dieu nous parle de manière surnaturelle. Et si vous attendez une manifestation surnaturelle pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, vous risquez d'attendre longtemps. Parce que sa volonté est déjà connue dans tellement de domaines. Alors ça, c'est une petite mise en garde. Il ne faut pas rechercher les signes spéciaux de Dieu qui vont m'indiquer quelle est la volonté de Dieu. Il y a d'autres manières de le connaître. Il y a une troisième manière que l'Esprit utilise pour révéler sa volonté à Paul. C'est par arbitrage, c'est-à-dire on prend une décision après discussion, entre chrétiens. Et là, on a un exemple absolument magnifique, c'est Acte 15. Parce que des gens étaient venus de Jérusalem à l'église d'Antioche pour dire « Oh, mais si les païens ne se font pas circoncire, ils ne sont pas disciples, ils ne peuvent pas être sauvés. » Ouh là là, ça c'était chaud, hein. Alors l'Église s'est rendue compte de la gravité du problème, l'Église d'Antioche a décidé d'envoyer à Jérusalem Barnabas et Paul pour discuter de la question de savoir s'il fallait exiger des chrétiens issus du paganisme de se faire circoncire. C'était la conviction des judéo-chrétiens. Et ça a donné des conversations riches en couleurs lors de ce concile de Jérusalem. Et finalement, Pierre s'est levé, il a pris la parole, il a dit « Oui, mais les amis, souvenez-vous, nous, Juifs, nous n'avons jamais obtenu le salut par l'observance de la loi. » Et à cela, Barnabas et Saul ont enchaîné en rendant compte de leur expérience parmi les païens, combien Dieu avait confirmé leurs paroles par des miracles et combien de païens avaient reçu l'Évangile. Et à la fin de ces différents échanges, Jacques arrive à la conclusion, il fait une synthèse en quelque sorte, il arrive à la conclusion qu'il est inutile et qu'il est même contraire à la grâce de Dieu d'exiger que les païens convertis se soumettent à la circoncision. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est ce que Jacques et l'Église disent dans la lettre circulaire qui doit être lue dans les églises d'Asie, qui ont été un peu contaminées par cette idée de conversion pour les païens. de circoncision pour les païens. Et là, voilà ce que la lettre dit. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Vous voyez, il faut noter que ce concile de Jérusalem, il a réuni des chrétiens d'expérience. Il a réuni des gens qui étaient absolument déterminés à comprendre quelle était la volonté de Dieu sur le comment on intègre des païens convertis dans l'Église. C'était une question d'une immense importance. Ça mettait en jeu l'unité de l'Église. Et donc, on l'a vu, après que chacun ait donné son point de vue, eh bien, le Saint-Esprit a fait émerger de ces différents propos une conviction commune. Voilà en réalité comment Dieu veut qu'on conduise les affaires. Voilà ce que l'Esprit nous a montré. Et ce qui est intéressant, vous me permettez de monter ce store parce que moi, j'ai pas assez de lumière ici. Comment est-ce qu'on monte? C'est ici? Ah ouais, merci beaucoup. Ouais, c'est bon, merci, c'est bien. Alors j'ai dit que c'était pas un exemple unique. Il y a plusieurs autres situations où les apôtres ont procédé exactement de la même manière. Alors il y a une situation qu'on a déjà évoquée il y a un petit instant, où en acte 16, vous vous souvenez, Paul et Silas veulent aller en Asie, fermeture. Ils veulent aller en Bithynie, l'Esprit dit non. Et puis, bon, il s'arrête, et la nuit, bon, il dorme quelque part, et pendant la nuit, Paul a une vision. C'est vraiment le spécialiste des visions nocturnes. Et dans cette vision, il voit un Macédonien qui l'appelle au secours, qui dit « Passe en Macédoine, secours-nous » Qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il en parle à ses compagnons de route. Ils en discutent entre eux, et finalement, il conclut: le Seigneur veut qu'on aille en Macédoine. Il nous a parlé. Il y a un cas encore plus intéressant que celui-là, parce qu'il est plus complexe. En acte 21, ça c'est vers la fin du ministère de Paul, quand il commence à avoir tous les problèmes à Jérusalem. En acte 21, Paul est en route pour Jérusalem et il s'arrête à Tyr. Et là, les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Parce qu'ils avaient entendu certainement les rumeurs hostiles qui couraient sur son dos, sur son compte, et ils sont inquiets pour lui. Et lui dit, mais n'y va pas. Mais Paul ne se laisse pas dissuader de poursuivre son voyage. Un petit peu plus loin, il se rapproche de Jérusalem, à Césarée. La menace se précise. Cette fois, c'est Agabus, un prophète, qui vient dire que les Juifs s'empareront de Paul et le livreront aux Romains. Et alors, quand les compagnons de Paul et les chrétiens locaux entendent ça, ils disent « Non, mais Paul, s'il te plaît, n'y va pas !» Et qu'est-ce que Paul répond? Paul, lui, il a déjà été averti des troubles qui l'attendent à Jérusalem. Mais il maintient sa décision. Là, on peut se dire, ouais, bon, vraiment, c'est une tête de mule. Franchement, il est totalement, c'est un orgueilleux. Il ne reçoit pas les conseils qu'on lui donne. Et là, on est perplexe. Là, on se demande, mais qu'est-ce que ça signifie? Comment se fait-il que ces personnes, qui toutes sont inspirées et poussées par le Saint-Esprit, donnent des avis contraires? Ça, franchement, quand ça arrive dans une église, c'est dur. Hein. Mais c'est le cas là. Alors, le Saint-Esprit avait effectivement déjà parlé à Paul des troubles qu'il attend à Jérusalem, mais il faut noter une chose, c'est que le Saint-Esprit ne lui a pas dit « n'y va pas ». Il a dit simplement « ça va être chaud, tu vas souffrir ». Et donc, Paul répond à ses compagnons. En substance, il dit, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et peu de temps avant, il avait dit aux Éphésiens, sachant ce qu'il attendait à Jérusalem, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse mon ministère, le ministère d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà ce qui me motive, quelle que soit l'opposition et les dangers. Alors, les autres croyants, ils étaient aussi animés par l'Esprit, mais c'était pas leur appel. Et quand ils ont compris cela, ils n'ont pas insisté. Comme le dit Luc, ils n'ont pas insisté. Ils ont admis que Paul devait aller. En dépit de ce qui leur disait, n'y va pas. Et vous voyez, ici, il y a peut-être quelque chose à retenir pour nous. C'est que l'unanimité spirituelle des croyants, c'est pas nécessairement la direction à suivre. Quand une majorité de gens sont d'un certain avis dans une église, on se dit, ben voilà, c'est clair, hein, c'est l'unanimité, surtout si on est suisse, c'est démocratique. C'est la volonté de Dieu. Non, mais parfois, c'est pas exactement la volonté de Dieu pour en tout cas un ou deux individus. Évidemment, je fais une petite parenthèse, il y a toujours des gens qui sont marginaux et qui sont réfractaires à tout ce qu'on peut dire. Donc, mais Paul, il n'entre pas dans cette catégorie. Il faut simplement savoir que ça existe, qu'il y a des gens aussi qui sont réfractaires et qui agissent pour d'autres motifs que ce que l'Esprit leur a vraiment dit. Mais, parenthèse fermée, le Saint-Esprit cherche à nous conduire et à nous soutenir dans l'appel qui est le nôtre, pas celui de quelqu'un d'autre, le nôtre, et il peut être différent. Et c'est ce qui rend les choses difficiles. Et parfois, ça demande d'accepter des risques qu'une majorité de chrétiens trouverait plus sage d'éviter. Il y a une quatrième manière que l'Esprit a de nous conduire selon la volonté de Dieu. C'est en nous laissant chercher quelle est la voie la plus sage. Il nous mâche pas tout le boulot. Il nous laisse chercher. On a plusieurs exemples de cela aussi. Quand on est dans ce genre de situation, c'est utile d'être un peu intelligent, d'être un peu futé parfois. Sans devenir malhonnête, mais être futé, savoir saisir les choses rapidement et prendre les bonnes décisions. Vous souvenez Paul à Philippe. À Philippe, parce qu'il a délivré une femme qui était animée par un esprit de devineresse, de divination, il s'est fait, ses propriétaires ont obtenu des autorités qu'il le châtie, qu'il le fouette et le jette au cachot. Et là, Paul, il a après coup dit aux autorités, oui, mais moi je suis citoyen romain, vous n'auriez pas dû agir ainsi. Il semble qu'il ait appris la leçon, parce que quand il se trouve à Jérusalem, et que le tribun qui est face à cette foule furieuse vis-à-vis de Paul ne comprend pas pourquoi cet homme suscite une telle violence, donc il lui fait donner la question par le fouet, c'est-à-dire on le fouette et tu vas avouer pourquoi. Et là, Paul, il dit, avant qu'on commence, il dit, est-ce qu'il est permis de fouetter sans jugement un citoyen romain? Et là, sa citoyenneté l'a protégé. Il a invoqué sa citoyenneté à bon escient. Ça l'a protégé. Le lendemain, le tribun qui décidément veut élucider le cas de Paul convoque les souverains sacrificateurs et les membres du Sanhédrin pour que Paul puisse leur exposer son cas. Et là, il a à peine commencé à parler que le souverain sacrificateur Ananias demande à ce qu'on le frappe sur la bouche. Et là, la réunion, elle part en vrille, très rapidement. Très rapidement. Et Paul, il se sait en danger dans cette assemblée. Et alors il a la lumineuse idée, parce qu'il sait que dans le Sanhédrin, il y a des Sadducéens et des pharisiens. Tout à coup, il crie à cette foule: « Je suis pharisien, fils de pharisien !» Ouh, ça a eu un effet fantastique. Les pharisiens ont dit: « Ah ouais, mais ces sales sadducéens, ils n'ont rien compris à la révélation de Dieu. » Et ils se sont bien battus entre eux. La réunion s'est terminée sur un punching général. Et le tribun, lui, il a dit: « Ouh, mon client, là, il est en danger. » Il a évacué Paul. Il l'a bien sûr remis dans sa cellule, mais le tribun a pris soin du citoyen romain parce qu'il devait assurer, garantir son intégrité et un jugement juste à son égard. Alors, un dernier exemple d'être futé, mais parfois ça marche pas. Et on le voit quand Paul arrive à Jérusalem, c'est juste avant l'émeute et la comparution devant le Sanhédrin. Il arrive à Jérusalem, Jacques et les anciens de l'Église, ils sont en souci parce qu'ils savent les rumeurs qui courent à son sujet. Alors ils lui proposent un plan de communication. Ils disent à Paul: écoute, voilà ce que nous te demandons de faire. Il s'agissait pour Paul de se rendre au temple avec quatre hommes qui avaient fait un vœu, donc il devait être avec eux, il devait pourvoir à leurs dépenses, il devait se purifier avec eux, pourvoir à leurs dépenses parce qu'il devait se faire raser la tête. Donc c'était un très ingénieux plan de communication, mais ça a été un flop complet. Parce que cette démarche n'a absolument pas convaincu les habitants de Jérusalem que toutes les rumeurs qui couraient sur le dos de Paul étaient fausses. Parce que on lui reprochait d'enseigner à la diaspora juive de renoncer à la loi de Moïse, de ne pas faire circoncire leurs enfants et de ne plus observer les traditions juives. Mais il y avait de quoi être lapidé trois fois. Et donc, en fait, ce plan, il s'est terminé par son arrestation, comme l'avait annoncé Agabus. Alors maintenant qu'on a vu ces quelques-unes des principales manières qu'a le Saint-Esprit de nous conduire, on peut passer à la seconde question. Vers quoi est-ce que l'Esprit veut nous conduire? Alors là, c'est relativement évident, parce que Jésus, avant d'être enlevé au ciel, a dit à ses disciples: voici, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Saint-Esprit qui réside en nous, eh bien, il a deux grands sujets, deux grands buts. Le premier, c'est de nous conduire à partager notre espérance, comme Jésus l'a demandé à ses disciples. Il nous conduit dans notre témoignage. Là encore, c'est très évident dans le livre des Actes, quand vous voyez comment l'Église, après la persécution, à partir de Actes 8, se répand partout, annonce l'Évangile. Le Saint-Esprit nous inspire, nous conduit pour que nous allions à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas Christ, pour leur annoncer de différentes manières le salut. Il nous inspire pour prier pour les malades. Il nous inspire quand il s'agit de défendre la vérité quand elle est attaquée, ou de surmonter les oppositions que provoque la prédication de l'Évangile. Ou bien il intervient aussi pour nous libérer des traditions qui nous empêchent parfois de faire la volonté de Dieu. Vous savez que en Actes 11, il y a des Juifs originaires de Chypre, sauf erreur, qui se mettent à parler aux Grecs du salut en Jésus. Mais ça, c'était inouï. Les Juifs n'étaient pas du tout prêts à faire ça. Mais eux, poussés par l'Esprit, l'ont fait. Et puis, comme dans le cas d'Étienne parfois, l'Esprit est là pour nous soutenir en face de la mort. Ça me fait penser à ces chrétiens coptes, 10 ou 12 chrétiens coptes qui ont été égorgés sur une plage de la Tunisie par des gens de Daesh. Je crois que l'Esprit les a soutenus dans ce moment. Parce qu'ils avaient la possibilité de renier leur foi. C'est ce que disent les musulmans. Tu acceptes Allah, tu acceptes Mohammed, tu es libre. Il fallait que l'Esprit les soutienne pour dire non, tant pis si je perds ma vie. Alors, tout cela, c'est abondamment décrit dans le livre des Actes. Mais il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est qu'à travers la mission d'annoncer l'évangile de Jésus, le Saint-Esprit œuvre à autre chose en nous. Il œuvre à renouveler notre intelligence qui est sérieusement endommagée par le péché. Et à ce titre, le Saint-Esprit veut développer en nous la capacité de prendre des décisions raisonnables qui à la fois collent à la volonté de Dieu, mais répondent aussi aux réalités concrètes avec lesquelles nous vivons. Et ça, c'est un besoin quotidien pour nous. Et là, je reviens à quelques exemples qui apparaissent dans la vie de Paul. Au cours du premier voyage missionnaire, où est-ce que Barnabas et Paul sont allés? Ils sont allés à Chypre. C'était une destination évidente. Vous savez pour qui? Pour Barnabas. Il était originaire de Chypre. Il a dit, on va aller évangéliser Chypre. Ça fait sens. Plutôt que d'aller chercher midi à 14h, allons à Chypre. Et quand ils sont allés à Chypre, ils n'ont pas évangélisé dans toutes les villes de Chypre. Ils sont allés où c'était stratégique. Ils ont fait la même chose dans la suite de leur voyage. Lorsque Paul a envisagé de partir, d'entreprendre un second voyage, Paul a dit, Jean-Marc, on l'emmène pas. Il nous a abandonnés au cours du premier voyage. Il n'est pas encore prêt. C'était son jugement à lui. Barnabas était d'un autre avis. Paul a dit, il ne part pas avec nous. Mais il a vu en Silas un homme qui était apte à partir avec lui. Et puis à Lystre, ils ont rencontré un jeune qui s'appelait Timothée, et Paul a dit, ouais, toi t'es apte. Viens avec nous. Vous voyez? Donc, là, Paul exerce son jugement. Et il utilise son expérience, son intelligence, son flair en quelque sorte. À Philippe, voyons. Oui, après avoir passé à Philippe, eh bien, il y a des villes, ils descendent sur la Grèce, ils sont en Macédoine, ils descendent sur la Grèce. Il y a plusieurs villes où ils ne s'arrêtent pas. Par contre, ils s'arrêtent à Thessalonique. Et puis là aussi, c'est très mouvementé, c'est très houleux parce que les Juifs sont très jaloux et ils font opposition. Paul s'en va, il descend sur Bérée, les Juifs Béréens les accueillent à bras ouverts. Ils sont enthousiasmés par l'enseignement qu'ils reçoivent, mais les Juifs de Thessalonique apprennent ce qui se passe à Bérée, ils descendent à Bérée, ils font à nouveau, ils retournent la ville contre Paul. Et Paul, là, il fait pas le fier. Il décide, il faut aller plus loin. Il laisse Silas et Timothée derrière lui, mais lui, il descend, il va plus loin. Quand il est à Athènes, Paul est exaspéré par le nombre de cultes idolâtres qu'il voit. Ça le pousse à discuter avec les Juifs dans leur synagogue, à discuter avec les Grecs sur les places publiques, parce qu'il veut faire quelque chose. Et là, il utilise son jugement. Qu'est-ce qui est approprié de faire dans telle situation? Et puis, quand il est à Corinthe, là, c'est très, très terre à terre. Il fait la connaissance de Priscille et Aquilas, et il décide de s'associer à eux, avec eux, parce qu'ils sont faiseurs de tentes. Ça va être un moyen de gagner sa vie pour lui, momentanément. Donc, dans toutes ces situations, Paul a pris une multitude de décisions pour lesquelles il n'a pas reçu un signal particulier de l'Esprit. Il a simplement usé de son expérience. Il y avait des choses qu'il a apprises, il a appris des choses dans la vie, et tout cela a inspiré beaucoup des décisions qu'il a prises au cours de son ministère. Et le but du Saint-Esprit, dans toutes les circonstances, c'est que nous vivions comme Jésus, qui était pleinement Dieu, mais aussi pleinement humain. Et nous, il faut que nous apprenions à vivre en étant pleinement humain et en même temps pleinement fils de Dieu. Et quand on essaie de faire ça, il y a certains risques. Parce que en voulant être pleinement humain, je risque de mettre l'accent sur ma raison, sur mes compétences, sur les ressources de la société, etc. Parce que je suis là, je me dis, bon, ben, il faut que je m'applique, hein, il faut que je m'engage en tant qu'humain. Et à l'inverse, quand on veut être vraiment agir comme fils de Dieu, on peut avoir, c'est pas une règle générale, mais on peut avoir la tendance à vouloir spiritualiser absolument tout et attendre des interventions de l'Esprit sur tout. Et là, on est dans un autre excès, dans un autre déséquilibre. Alors, comment trouver l'équilibre? Personnellement, ce que j'essaie de faire dans ma vie, comment garder l'équilibre entre les deux? D'abord, en acceptant pleinement notre humanité. Nous avons des limites physiques, des limites intellectuelles, des limites psychologiques. Ça, c'est une réalité. On peut pas s'en affranchir. On vit avec ça tous les jours. Et vis-à-vis de cela, il faut pas prendre le Saint-Esprit comme une espèce de booster qui me permet en permanence d'échapper à mes réalités humaines. Parce que vous pouvez prier toute une nuit, mais il va quand même falloir qu'à un moment donné, vous alliez vous coucher. Ou vous pouvez jeûner 40 jours, mais il faudra bien qu'un jour vous repreniez un régime normal. Parce que l'Esprit ne vous permet pas d'échapper à vos limites humaines. Donc on est d'accord, je pense, sur ce point. La sagesse, c'est d'accepter pleinement mon humanité avec ses limites. Mais je le fais comment? Je le fais en m'attendant à Dieu dans l'acceptation de mes limites. Et là, je vous donne quelques petits exemples rapides dans la vie de Paul. À Philippe, vous vous souvenez, Paul et Silas sont jetés en prison, ils sont au cachot. Ils sont réduits à l'impuissance. Et qu'est-ce qu'ils font dans leur état d'impuissance? Au milieu de la nuit, ils prient et ils chantent les louanges de Dieu. Et Dieu intervient pour eux, par un tremblement de terre. Ça leur donne la possibilité d'évangéliser le geôlier et sa famille. Et le lendemain, ils sont libres. Mais ils ont accepté leur impuissance, ce qui a donné l'occasion à Dieu d'intervenir. Ou bien quand Paul est en route pour Rome, il se retrouve dans ce bateau qui dérive depuis 2 semaines, sur lequel il y a plus de 270 personnes. Et Luc dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Et Paul, lui, il a vécu 3 naufrages avant ça. Donc il sait de quoi il retourne quand on est en mer. Il sait que c'est dangereux. Mais voilà que Dieu lui parle pendant la nuit. Et il se lève le lendemain. Et il encourage tout le monde. Et il dit, voilà, un ange m'a dit, tu dois arriver à Rome. Tu vas aller à Rome. Et tous les passagers de ce bateau auront la vie sauve. Donc, Paul, là aussi, il était dans une situation d'impuissance. Il a accepté. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre que d'accepter son impuissance? Mais c'est là que Dieu s'est révélé à lui, à nouveau. Alors, je conclue. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils, filles de Dieu. Quand on permet à l'Esprit de Dieu de nous conduire, le fait que nous sommes fils et filles de Dieu devient manifeste. Ça devient une réalité tangible pour les gens autour de nous. Et évidemment que c'est une réalité glorieuse, mais en même temps, c'est une réalité qui nous met sous tension. On est sous tension, pourquoi ? Parce que on appartient toujours au monde présent. On vit toujours dans un corps déchu. On vit toujours au sein d'une société déchue. Et en même temps, on appartient au royaume de Dieu qui n'est pas complètement révélé, pas complètement manifesté. Mais on le connaît, on a une espérance en ce royaume de Dieu. Et c'est pourquoi notre espérance, elle n'est pas dans ce monde. Notre espérance, elle se porte vers la Nouvelle Jérusalem. Là où, enfin, notre volonté sera la volonté de Dieu et la volonté de Dieu sera notre volonté. Il n'y aura plus de conflits, plus de tensions. On sera totalement libérés. On sera libérés de la présence du péché. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on n'y est pas encore. Eh bien, on vit en fils et fille de Dieu, conduit par l'Esprit. Cet Esprit qui ne nous fait pas dépendre de signes spéciaux pour que nous discernions la volonté de Dieu, mais qui nous conduit à prendre jour après jour les décisions raisonnables que demande notre vie maintenant, ici-bas. Les décisions raisonnables. Ça paraît pas très, comment est-ce qu'on dit, glamour, hein? Les décisions raisonnables. Ah! Oui, mais l'Esprit, il n'est pas glamour. L'Esprit, il est réel. Et il veut notre transformation. Que nous soyons de plus en plus fils et filles de Dieu dans notre vécu. Et ça passe par cet exercice de dépendance vis-à-vis de Dieu et aussi de prise en compte d'une réalité qui est compliquée, déchue, souvent décevante. Mais c'est là qu'on a l'occasion d'être sel et de manifester la lumière de Dieu. Vous êtes partant ? Amen ! On est partant par la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord de prier ? Si ça vous donne envie de prier, lâchez-vous.
Seigneur, c'est beau de savoir que tu es présent et tu es un Dieu qui agit. Tu nous parles de différentes manières. Seigneur, mon désir, c'est de reconnaître ta voix, d'être réellement à ton écoute et de te suivre.
Oui. Amen.
Merci Seigneur pour c'est toi qui nous donnes des limites très simples en toute chose. C'est toi aussi qui peux les dépasser dans ce que toi tu prévois. Dans tous les domaines de notre vie, que ce soit intellectuel, émotionnel, spirituel, dans la marche, ce qui est physique, psychique, tu es là. Tu remets en état, tu touches. Et je te loue, Seigneur, parce que rien ne t'échappe.
Oui.
Et merci, Père, pour tout l'aspect aussi de guérison, de cheminement avec toi.
Oui.
Dans ce monde, je vais t'en prie.
Amen.
Verset 20 dit que Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il me fait beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce que l'on peut imaginer. À toi la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus dans tous les temps et pour toujours. Amen.
Amen.
Merci Seigneur parce que tu nous aimes et ton amour nous adore. Tu ne cesseras jamais de nous aimer. Merci parce que tu es tout puissant. Merci parce que tu agis. Encore, de nos jours, tu accomplis des miracles. De nos jours, tu es le même bien aujourd'hui que l'éternel. Béni soit-toi.
Amen.
Merci Seigneur de ce matin, parce que ce matin, tu me rappelles, tu nous rappelles notre humanité limitée, et malgré tout, tu fais appel à moi, tu fais appel à nous pour l'avancement de ton règne ici.
Oui.
Malgré nos imperfections, malgré nos incapacités, malgré nos limitations. Et merci de nous rappeler aussi que lorsqu'on ne peut plus rien faire, que tu es impuissant, comme ça a été démontré, et bien on peut fier à toi, de louer, de chanter, et toi de répondre.
Oui.
Quelle que soit la situation. Ça, c'est un bon courage.
Amen.
Et je t'en remercie.
Amen.
Amen. Merci, Père, parce que tu conduis tes enfants qui se confient en toi, tout en utilisant le bon sens, la sagesse, sans artifice de quoi que ce soit. Et Seigneur, parce que ton esprit nous conduit sur le chemin de la vérité. Amen.
Amen.
Mais Seigneur Jésus, ta parole est saine. Ta parole est vive. Je te dis merci pour ces paroles. Merci car ta Bible est une lampe de rocher que nous savons fidèles chaque jour. Tenez à te glorifier. Te remercier parce que tu es Dieu. Puissant, tu nous donnes ta paix. Et ton amour, tu es passé pour notre église. Merci Seigneur Jésus.
Oui.
Amen.
Amen. Merci pour vos prières.